Merci de choisir Radio Ndikiluka pour vous informer. Il est justement 13h. Reine Fabienne Doutiga est avec nous pour le journal. Reine Fabienne, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Yaboudé, soyez les bienvenus dans cette édition. Des réactions encore après l'arrestation de Jeune Ngaï Kossé, ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé. Comme Amnesty International, les victimes des tueries de 2005 à Paoua demandent que justice soit faite. Les épreuves écrites du brevet des collèges ont démarré ce matin. Plus de 23 600 élèves composent sur le territoire national. À Berberati, dans la Mambéré Kadéi, le dispensaire de Potopoto manque de médicaments et éprouve de difficultés à se ravitailler. Reportage à suivre dans ce journal. Football, défaite hier des Fauves de Bazoubongui dans leur deuxième match de qualification à la Coupe du Monde 2022. Défaite devant le Libéria 1-0. À suivre la réaction de l'entraîneur centrafricain.
Comme annoncé dans les titres, Rennes, des réactions après l'arrestation de Jeune Ngaï Kossé, ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé.
Oui, Verdane, les victimes réclament justice. Jeune Ngaï Kossé est accusé d'avoir commis de crimes de masse à Paoua et plusieurs autres au temps de l'ancien président François Bozizé, il y a de cela plus de 15 ans. Il a été arrêté le samedi 4 septembre au PK22 sur la route de Damara. Rolf Estef Domialu.
Certaines victimes à Paoua, contactées par Radio Ndekeluka, saluent l'arrestation de Jeune Ngaï Kossé. 15 années sont passées, mais la blessure reste vive. Cette femme a vécu les événements de 2005. Pour elle, l'arrestation de Jeune Ngaï Kossé est un offre de soulagement.
On se sent soulagé, moi-même je me sens soulagé parce que quand on a appris qu'il est arrêté, tout le monde a eu de l'espoir que tout se fait ici-bas. Et puis on l'avait sur le boucher de Paoua, effectivement il a pu tuer. Tout ce qu'il trouve en cours de route qui bouge, il tire dessus, c'est ça.
La situation est encore instable et certaines victimes ont peur de donner leur voix. Mais la plupart souhaitent que Jeune Ngaï Kossé, 54 ans, soit jugé ici en Centrafrique.
Nous voulons bien que la justice fasse son travail. Parce que si quelqu'un commet une faute et qu'il est sous la justice, il faut que la justice fasse son travail. Comme ça, nous aussi, on suit de près ce qu'il a fait. Ça va nous arranger. Quoi. Les victimes n'ont rien gagné, donc nous aussi, on n'aura rien. Mais sinon, s'ils peuvent faire quelque chose pour la région, c'est encore mieux. Il y a des orphelins, des veuves, tout ça là.
En attendant, Eugène Ngaï Kossé, arrêté le 4 septembre au PK22 sur la route de Damara, est en détention à la section de recherche et d'investigation. Selon des indiscrétions, la Cour pénale internationale souhaiterait se saisir de son affaire.
Rolf Estef Domialeux sur Radio Ndekeluka.
Une autre réaction reine, c'est celle des organisations de défense des droits de l'homme.
Verdane, pour ces organisations, cette arrestation marque le début de la réponse judiciaire aux crises récurrentes que connaît la République centrafricaine. C'est ce qu'a indiqué Abdoulaye Diarra, responsable d'Amnesty International à Dakar. Jean-Fernand Kouina l'a contacté pour nous.
On est en 2005, le lendemain de la victoire de M. Bozizé à l'élection présidentielle. Cette victoire fait elle-même suite à un coup d'État qu'il a mené à l'époque. Et plusieurs groupes rebelles vont se former dans le nord-ouest du pays, mécontents de la situation politique générale. Et pendant la répression de cette rébellion par plusieurs unités des forces républicaines, les autorités feront appel à une unité de la garde présidentielle qui était basée à l'époque à Bossangoa et qui était commandée par M. Eugène Ngaï Kossé. Et au cours des combats qui ont duré tout au long de l'année 2006, de graves violations, de graves exactions seront commises. On documente notamment des pillages, des incendies, des violences sexuelles, mais également des exécutions sommaires. Et donc l'unité de M. Eugène Ngaï Kossé a participé à ces combats-là. Et il y a plusieurs rapports qui ont été faits par des ONG de droits de l'homme qui ont documenté ces actions au nord de Paoua et au cours desquelles des civils ont été exécutés de manière sommaire. On peut noter par exemple le cas du village du hameau de Bemal où au moins une trentaine de civils seront tués. Donc c'est pour nous une avancée importante dans la question de la lutte contre l'impunité en RCA. Il est important que tous les crimes qui ont été commis dans le pays depuis 2002 puissent connaître une suite judiciaire et que les populations et les victimes puissent obtenir réparation.
Abdoulaye Diarra, responsable d'Amnesty International à Dakar.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekelo Karen. Comment les Centrafricains qui reviennent de l'étranger apprécient l'état de la ville de Bangui?
Vers Diane, les réactions sont mitigées. Les uns avaient quitté la capitale pour les études, d'autres pour travailler et certains partaient en vacances. Quelques-uns sont actuellement de retour à Bangui. Comment trouvent-ils leur capitale? Suivant ce reportage de Rolf Estève Domialu.
Dans l'appareil qui vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Bangui Mpoko, se trouvera bientôt une Centrafricaine qui revient de la Côte d'Ivoire après 2 ans d'études. Pour rentrer à la maison, elle a emprunté la route qui traverse le marché de combattants.
J'ai posé une question à ma maman. Je lui ai dit, est-ce que réellement les hauts cadres de la République centrafricaine qui s'en vont à l'étranger là, passent par cette route pour aller monter l'avion? Elle m'a dit, mais bien sûr. En tout cas, vers combattants, j'étais choquée. Il y avait des ordures un peu partout et je ne vois rien de nouveau. Après 2 ans, en tout cas, j'étais trop choquée vraiment. Tout est poussiéreux comme ça.
Pas que Rabiatou. Lionel est également dans le lot. L'homme a passé des moments en Tanzanie. À Bangui, il déplore le manque des moyens de télécommunication.
J'ai fait la Tanzanie. J'étais toujours émerveillé puisque ce que je vois toujours ailleurs n'est pas comparable à ce qui se trouve dans mon pays, en République centrafricaine. Par exemple, dans certains pays, dès que tu arrives au niveau de l'aéroport, tu as la connexion, tu as le Wi-Fi. Ici, en République centrafricaine, c'est difficile. Au niveau de l'aéroport, il n'y a pas vraiment un service Wi-Fi. Ailleurs, la construction des infrastructures respecte un peu les normes. Donc, par exemple, si la route est bitumée, tu vois à côté les caniveaux pour l'évacuation des eaux. Vraiment, je ne pense pas qu'au niveau de Bangui, on respecte les normes.
Jikael Abdou, lui, revient du Brésil. Il appelle tous les Centrafricains à une prise de conscience.
Chacun doit apporter sa contribution. Au lieu de rester ailleurs critiquer, non, nous devons apporter d'une manière ou d'une autre pour construire notre pays. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Normalement, la mairie doit mettre une structure en place pour surveiller, pour amasser les ordures. Et, exemple, si vous passez dans la ville de Bangui, c'est vraiment regrettable. Quand il pleut, c'est pas facile de passer dans la ville de Bangui.
Fondée le 26 juin 1889, Bangui est la capitale politique de la République centrafricaine avec plus d'un million d'habitants. De l'avis de nombreux Centrafricains qui reviennent de l'étranger, Bangui est peu développée par rapport aux autres capitales.
Parlons de l'avis de Bangui. C'est difficile en ce moment de circuler dans les rues de la capitale.
Beaucoup de routes sont dégradées, une situation décriée par les usagers. Faustin Moretti-Zekaba a constaté le fait.
D'abord, sur l'avenue Conjigo, c'est le tronçon qui relie le rond-point des Martyrs au croisement Siot. Le passage est pénible. Le bitume a presque disparu. Des multiples trous sur la voie gênent le passage des mobiles qui soulèvent aussi de la poussière.
L'avenue Conjigo est en danger. Il y a des trous partout. Ça ne prend pas du tout.
Bientôt, il y a la rentrée scolaire. Il y a aussi les élèves qui vont à l'école. Il y a le problème de véhicules. L'état de route, ça dégrade et le véhicule toujours avec des pannes. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il prévoit pour l'état de route?
La route n'est pas bonne. Il faut arranger d'abord la route.
Au niveau du Grand Café sur l'avenue Boganda, la chaussée est totalement couverte de boue et inondée d'eau stagnante.
Même en face de Hussein, il y a des inondations, les caniveaux sont sales, les ordures là encore devant nous. Je ne sais même pas comment on peut passer. Ça, c'est pour amener des malades.
La route, moi, je vis là. C'est la route des quartiers, ce n'est pas la route des villes de Bangui.
Si peu, ça monte sur la route. On ne peut pas passer. Même les véhicules qu'on passe, même pas. Il y a l'eau, tout ça là. C'est désagréable. Vu-même le Premier ministre, le président de la République, voit ça. Il ne réagit même pas.
Mustapha Malonga, conducteur de taxi-moto, emprunte souvent l'avenue Kudoku. Il appelle le gouvernement à agir.
L'état de la route au niveau de l'avenue Kudoku, c'est très difficile avec nous les taxi-moto. Il y a trop d'accidents ici. Vraiment, on demande au gouvernement pour nous aider à peu près pour vous arranger la route.
Selon Alain Syriac Solos, directeur des cabinets du ministère des Travaux publics, certaines grandes avenues vont être arrangées avant la fin de cette année.
Le fonds d'entretien routier chez nous vit à travers les recettes du péage. Mais quand vous avez des conflits, les péages ne sont pas payés. Compte tenu des moyens, des ressources, nous sommes obligés de sélectionner certaines grandes avenues de dégradation très avancées. Pour cette année, nous avons programmé l'avenue de France Martyr, Indépendance Kudoku, où nous estimons que ce sont des priorités du département.
Les voies de communication en Centrafrique restent un grand défi pour le développement.
Éducation dans ce journal, les épreuves écrites du brevet des collèges ont démarré depuis ce matin.
Plus de 23 600 élèves composent sur l'ensemble du territoire national. Jusque-là, tout se passe bien. Astrid de Bonheur-Collinguet a sillonné quelques centres d'examen ce matin.
Pour ce premier jour, les candidats ont commencé avec le français et l'anglais. Intiza Okaya Dagash est élève au lycée Nasraddin. Elle se sent à l'aise au déroulement des épreuves.
On a commencé par la dictée, le grand départ. Texte, on a fait dans le texte, il y a la grammaire, vocabulaire et l'autre là, rédaction et expression. Ça s'est bien passé.
Feriol, élève du lycée Gobongo, vient de finir la dictée. Il estime déjà sa note.
Le français avant tout. C'est candidat et oui. J'espère que je peux avoir le moyen de 10 et de 11 en allant.
Nous arrivons au centre numéro 6. Les candidats sont encore en classe. Christelle Feidangamo est chef de secrétariat au lycée Marie-Jeanne Caron. Selon elle, aucun incident n'a été enregistré.
Nous avons au total 1515 candidats dans notre centre. On a deux jours pour la composition, aujourd'hui et demain. Non, jusqu'à là, on n'a pas enregistré un cas d'incident. Oui, on a pris toutes les dispositions pour délibérer dans le délai.
Ces épreuves se déroulent sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Elles ont également eu lieu dans les régions de Bokaranga, Ngaoundaï, Kouy et Ndim, localités perturbées ces derniers temps par l'insécurité. Les plus de 23 600 candidats ont jusqu'à demain pour boucler le brevet des collèges.
Dans l'actualité aussi, le centre de santé de Poto-Poto, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Berbérati, rencontre des difficultés pour avoir accès aux médicaments.
Ce ravitaillement est un véritable calvaire pour ce centre de santé. Les habitants ne s'y rendent pas comme auparavant à cause du manque et de la cherté des médicaments. Ils préfèrent se soigner ailleurs et autrement. Les responsables de ce dispensaire appellent les autorités à construire un dépôt pharmaceutique à Berbérati, ville située au sud-ouest de la République centrafricaine. Reportage de Bienvenue Bello.
Quelques rares personnes continuent de fréquenter le centre de santé de Poto-Poto. Des mamans avec leurs bébés viennent pour les vaccins. Léontine Namdanga, infirmière, parle de la fréquentation du dit centre par les femmes, surtout celles qui sont enceintes.
Certaines femmes comprennent et viennent régulièrement au rendez-vous. D'autres ne respectent pas. Nous leur prodiguons des conseils jusqu'à l'accouchement. Nous continuons à les suivre et leurs bébés pour contrôler leur santé. Ces femmes doivent respecter nos conseils.
Après les événements survenus dans la ville de Berbérati et la dégradation avancée des routes menant à cette ville, trouver des médicaments, c'est difficile pour le centre de santé de Poto-Poto. Marina Dobozenji, la chef du centre, déplore cette situation et appelle les autorités à l'aide.
Les difficultés rencontrées au niveau du centre de Poto-Poto ici, il n'y a pas assez de médicaments comme il se doit et il n'y a pas un dépôt pharmaceutique dans Berbérati pour qu'on puisse aller payer les médicaments. Donc tantôt on envoie l'argent en Bangui pour payer les médicaments. Il y a trop de tracasseries. Quand le médicament arrive sur Berbérati, et maintenant si on met un peu de taxe là-dedans, les patients nous fuient par rapport aux frais. Je souhaiterais bien de dire au gouvernement de penser quand même dans la localité de Berbérati pour faire une construction de dépôt pharmaceutique. Ça va nous aider dans des différentes fosas.
Le dispensaire de Poto-Poto a un personnel de près de 20 employés, dont 13 femmes. Il y a différents services qui s'occupent de la maternité, des vaccinations, de la planification familiale, des soins et du laboratoire. Ce centre est appuyé par la Croix-Rouge française avec des gratuités ciblées. Il fonctionne tant bien que mal dans un quartier qui a été beaucoup secoué pendant les événements.
Actualité africaine, Rennes au Mali. Les autorités parlent de la brève incarcération et libération par la suite du commandant de la Forcette vendredi dernier.
Effectivement, Verdane Oumar Samake avait été inculpé pour meurtre et coup mortel dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020, une répression qui avait fait 14 morts. Incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a été relâché sous la pression de policiers rassemblés devant la prison, ce qui a suscité l'indignation de nombreux acteurs politiques et de la société civile malienne.
La page sport de ce journal, football, réaction de Raoul Savoie, sélectionneur centrafricain après la défaite des Fauves face au Libéria.
Effectivement, malgré plusieurs occasions, les Fauves de Bazoubongui ont perdu 1-0 devant le Libéria au stade Japoma de Douala au Cameroun. Réaction de Raoul Savoie, le sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine, l'attaque doit être améliorée.
Évidemment, c'est dur parce que c'est un match qu'on ne doit jamais perdre. On a 5, 6, voire 7 occasions de but net. On a une équipe jeune, ça fait partie aussi de l'apprentissage. L'équipe s'est battue, elle a fait un bon stage, on a trouvé je crois une assise défensive. On doit absolument améliorer le niveau offensif, la finition. peut-être encore changer, prendre des joueurs peut-être plus incisifs, peut-être plus malins aussi. Voilà, donc simplement il faut on construit, on est en train d'avancer pas à pas.
Raoul Savoie, sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine, pendant la conférence de presse d'après-midi hier, dans le groupe de la République centrafricaine, le Nigeria affronte ce soir le Cap-Vert. Le Nigeria avait battu le Libéria 2-0 et le Cap-Vert avait fait un match nul, un but partout avec la République centrafricaine. Et voilà tout pour ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version en langue nationale, c'est tout de suite.